Bonjour Martin.
Bonjour.
Celle qui entre par une oreille trouve l'autre fermée et ressort par la bouche la chanson. Celle qui fait sa place au soleil dans l'ombre de nos cœurs et que rien n'effarouche la chanson, la chanson.
Avant les cris des poètes insoumis, révoltés et visionnaires, il y a les premiers pas artistiques de Léo Ferré, la période des cabarets et des galères. Aujourd'hui, pour redécouvrir et comprendre cette période de la vie du poète qui correspond aux années Le Chant du Monde, une superbe et précieuse anthologie est sortie qui présente en deux CD de nombreux documents jusqu'alors jamais réédités. Et pour évoquer la carrière de Léo, je reçois aujourd'hui son fils, Mathieu Ferré. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors on va évoquer donc une période un peu restreinte de la carrière de Léo Ferré, parce que sinon on pourrait jamais faire ça en l'espace d'une émission. Donc les premières années, celles peut-être qu'on connaît pas le mieux. Alors bon, vous êtes en fait l'aîné des trois enfants de Léo et Marie-Christine Ferré, vous êtes né en 70,
oui.
Et vous êtes très attaché à la mémoire de votre père, et actuellement vous travaillez beaucoup à retrouver tout ce qu'on peut faire connaître, qu'on ne connaissait pas. Et...
Oui, comme document, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un de très créatif et qui travaille beaucoup, donc on a beaucoup de documents et puis tout doucement on essaie de les diffuser. Donc ça c'est en fait le premier objet qui ressort de ce travail.
Et vous occupez également des éditions La Mémoire et la Mer.
Oui, donc qui sont à Monaco, qui ont été créées en 92 avec mon père et ma mère et mes sœurs. Et donc c'est édition musicale normale et donc c'est moi qui m'en occupe.
Quelques dates, juste pour resituer les premiers pas de Léo Ferré rapidement. Donc il est né à Monaco en 1916. De 9 à 17 ans, il a été pensionnaire chez les Frères des Écoles Chrétiennes à Bordighera en Italie.
Bordighera.
Voilà, vous savez le prononcer, moi je ne parle pas italien. Donc en Italie, une période qu'il n'a pas forcément très très bien vécue, où il se sentait déjà lamartiste et passionné par la musique, mais pas très proche de l'univers religieux dans lequel il se trouvait.
Il était un peu en prison peut-être, je crois.
C'est comme ça qu'il l'a vécu.
Ouais.
Après, il a été prof de français, apprenti dentiste, puis journaliste. Il avait eu son bac entre-temps. Et il est parti pour Paris à l'automne 1935, étudiant en fac de droit.
Avec sa sœur, il était. Il était avec sa sœur.
Et qui s'appelait d'ailleurs
Lucienne.
Et il a obtenu son diplôme de Sciences Po en 1939. Ça, il n'en parlait pas tellement.
Non, non. Ben oui, mais il devait pas considérer que c'était très primordial dans sa carrière.
Alors, il commençait à écrire des chansons plutôt pendant la guerre, mais il y en a une qui est certainement inspirée de cette période qu'il a vécue avant la guerre, lorsqu'il logeait à Saint-Germain-des-Prés.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il commence, je crois qu'il a démarré en écrivant des mélodies sur des poètes. Donc Verlaine, comme ça, il devait... je crois que la première chose absolument qu'il a écrite, c'est une mélodie, donc sur une poésie de Verlaine. Et puis comme ça, pour s'amuser, parce que sa sœur, Lucienne, donc, apprenait le piano. Mais lui, on ne lui réservait pas de piano, donc il trichait un peu, il allait là, un peu en cachette, et puis il s'amusait dessus. Et puis après... Après, il est venu à Paris, puis il a un peu laissé tomber, je crois, ça. Enfin, il devait pas vraiment y croire, quoi. Enfin, il a toujours eu ce truc de la musique, depuis enfant, mais composer vraiment, comme vous dites, des chansons, je sais pas. Ça doit être peut-être les mélodies qu'il a écrites sur Verlaine, ça doit être les premiers trucs qu'il a fait.
Cette chanson que j'évoquais, à Saint-Germain-des-Prés, en fait, présente plutôt le climat de ce quartier avant la guerre, donc à l'époque où il y était, parce que bien sûr ça a beaucoup changé dès la libération, et donc alors que la chanson elle a été enregistrée notamment par Henri Salvador à la fin des années 40, il faut arriver donc à bien comprendre que s'agit de l'avant-guerre.
Oui, c'est un peu l'image que reflète la chanson, c'est l'image qu'il avait quand il était venu avec sa sœur, donc dans les années 30-35, dans ces eaux-là. Mais
j'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé pour courir le guilledou près de la Seine. Souvent
on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarader chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs teints blêmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien des rêves. Quand même ils parlent le latin et n'ont plus faim. À Saint-Germain-des-Prés, si vous passez rue de l'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, Jean de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, il fallait y penser. Saluons-les.
Oui, oui. Donc, comme je disais, il disait en fait que Saint-Germain-des-Prés, après, c'était, ça avait changé complètement. C'était plus le petit village que c'était. C'était devenu. Il disait quand on voyait une voiture passer, on se retournait tous. Et puis, ça, c'était un peu un événement. Et puis après, ça a changé complètement.
Léo Ferré, donc, à Saint-Germain-des-Prés, une chanson qui figure sur le, ce qu'on appelle le premier Ferré, le mythique 25 cm sorti chez Le Chant du Monde au début de l'année 1954, qui avait été enregistré en octobre et novembre 53, où figure 11 titres parmi les plus importants du début de la carrière de Léo Ferré: L'île Saint-Louis, La chanson du scaphandrier, Barbarie, L'inconnu de Londres, Le bateau espagnol, La vie d'artiste, Flamenco de Paris, Les forains, Monsieur tout blanc, L'esprit de famille, et donc celle qu'on vient d'entendre. Et ce disque vient d'être édité sous sa forme, en digipack, en reproduisant la pochette d'origine. Hein. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, en fouillant dans les archives du Chant du Monde, qu'il y avait d'autres enregistrements plus anciens, notamment des enregistrements sur 78 tours qui dataient de 1950, où on retrouve un peu les mêmes titres.
Oui, alors c'est pratiquement les mêmes titres qui avaient été gravés une première fois donc en 50. Mais pendant des années, ils croyaient que c'était en fait les mêmes chansons qui étaient reprises,
les mêmes enregistrements
qui étaient repris soit sur le 78 tours et après sur le 30, sur le 25 cm. Ce qui s'est avéré pas être le cas, vu que...
À l'écoute.
Voilà. Ouais.
Et donc, il a été décidé de rééditer également les originaux, oui, sous forme d'un coffret, d'un double CD. Donc, le premier, c'est la réédition du 25 cm, plus quelques documents inédits qui viennent de l'INA, voilà, c'est-à-dire des enregistrements extraits d'émissions de radio de la fin des années 40. Qui sont
voilà, à partir de la fin des années 40, parce qu'il travaille comme ça avec Francis Claude, comme ça, pour des cachetons, comme il disait, pour vivre un peu. C'était très difficile au début. Et donc, il écrivait des chansons comme ça, un peu sur commande, quoi, selon l'émission, le thème, ce de quoi traitait l'émission. Alors, il faisait une chanson.
Et puis, donc, sur le deuxième CD figurent les fameux 78 tours qui donc reprennent à peu près les mêmes titres mais dans des interprétations différentes, plus anciennes. Et à la fin, des documents absolument incroyables, des enregistrements sur disques souples donc on n'arrive pas vraiment à dater, que vous avez retrouvé, Mathieu Ferré.
Oui, oui, en Italie, donc, dans un armoire, c'est qu'il y a tous des disques 78 tours anciens. Et puis, je suis tombé là-dessus, alors comme je suis en train d'écouter, d'essayer de tout, tout ranger pour bien trouver ce dont on a besoin, je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dessus, parce que il y avait rien de marqué dessus, aucune étiquette, c'était vraiment une espèce de maquette de l'époque, disons. Donc j'ai écouté, et puis c'était des choses que j'avais jamais entendues, donc je me suis dit il faut aller dans un studio professionnel pour essayer de le sauver, parce que ça commençait déjà à s'effriter, ces disques.
Oui, ce sont des disques qui s'écaillent, en fait, avec le temps. Ouais. Ils n'étaient pas faits pour durer, donc c'est des archives de radio. On ne sait pas de quelle radio. En
tout... Ah, je ne crois pas que c'était justement de radio. Je crois que ça devait être des espèces de maquettes, comme aujourd'hui
on fait des CD.
Ouais. Oui, ou des petits studios comme ça, d'amateurs.
Vous avez notamment retrouvé l'Opéra du Ciel.
Oui.
Une œuvre à laquelle il tenait beaucoup.
Oui.
Qui a été créé sans doute à Monaco durant l'occupation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a chanté lors de son premier engagement à Paris, au Bœuf sur le Toit, en novembre 46.
Oui, et là, Roche Aznavour aussi l'a chanté, apparemment, l'interprété.
J'ai tant pleuré que je n'ai plus le souvenir de mes alarmes, car j'ai perdu jusqu'à l'alarme qui me donnait l'air ingénu. Et si mon cœur n'est pas plus pur que la source où boivent mes rêves, c'est qu'il est transpercé de glaive et qu'il reste criblé d'azur. Si j'avais les yeux du bon Dieu, je me les crèverais et pour amuser les curieux, ils verraient ce qu'on a cru voir, tous les millions de désespoirs vomis par mille clientèles. Les yeux du bon Dieu, je pleurerais des larmes rouges et tant battu la vanité que le sang me monte à la tête, moi qui croyais être à la fête et qu'il vit dans l'absurdité. Le grand amour que j'ai conçu pour les humains de la déroute a terminé sa longue route et je demeure un se pétrir des cœurs en renversant
terre entière.
Si j'avais les mains du bon Dieu, je giflerais la bourgeoisie et trouverais des chirurgies pour occuper ces beaux messieurs.
Si j'avais les mains de Dieu, je giflerais la bourgeoisie.
Du bon Dieu, je giflerais la bourgeoisie.
Un extrait donc de l'Opéra du Ciel, un document absolument incroyable. C'est Léo Ferré, bien sûr, enregistré. On ne sait pas trop quand.
Oui, ça c'est difficile à dater.
Entre 1944 et 47.
Peut-être avant. Moi, c'est vraiment difficile de trouver, de dire exactement. Ouais. Vous rendez compte? Moi, j'ai trouvé ce piral là et comment faire pour dater? C'est pas possible.
Et en tout cas, donc vous l'avez retrouvé dans les
plus
archives.
Plus ou moins dans ces années-là. Oui.
Donc c'est le premier document connu de la voix de Léo Ferré, avec une voix d'ailleurs très étonnante, qui est tellement différente de ce que.
Oui, d'ailleurs, quand il avait, parce qu'il aimait beaucoup de Charles Trenet, et il était allé le voir à Montpellier, dans le sud de la France, je ne sais plus exactement. Et Trenet lui avait dit: oui, c'est bien ce que vous écrivez, mais vous chanterez jamais vous-même vos chansons. Peut-être que c'était dû à ce genre de voix qu'il avait à ce moment-là.
Avait un petit vibrato, ouais, enfin, c'est un côté un peu affecté comme ça. C'est drôle, hein, de voir l'évolution. Non, mais c'est ça qui est passionnant, c'est de voir l'évolution de son interprétation entre ses premiers essais et puis ce qu'on connaît par la suite. Et moi, je trouve ça vraiment très émouvant, et c'est formidable que vous ayez pu retrouver ça. Et enfin, ce texte figure dans Poète vos papiers.
Oui, qui est le premier recueil de poésie écrite par Léo Ferré, donc Table ronde.
Qui est paru en 56.
Oui.
Et alors donc là, on est vraiment au début d'une période difficile pour Léo Ferré, qui a duré un peu moins, enfin entre, mettons, 5 et 10 ans, quoi, la période, disons, entre la fin de l'occupation et puis le début des années 50, lorsqu'il est allé de cabaret en cabaret, oui. Qu'il a essayé de se faire connaître et il avait en plus un profond besoin de reconnaissance, il voulait être entendu par un large public, et puis bon, au début c'était pas facile, quoi.
Ou ça, je sais pas s'il avait vraiment ce besoin d'être écouté par un large public, vous croyez ça?
C'est ce que j'ai cru comprendre, à travers les différentes biographies qui sont parues de lui. Moi, je le connaissais pas. Vous le connaissez évidemment.
Ouais, moi, je le connaissais pas à cette époque-là, hein, bien sûr. Malheureusement, si je peux pas. Mais oui, c'est sûr que c'était une époque très difficile pour lui. Mais c'était une époque différente.
Il a connu tous les cabarets de Saint-Germain, finalement. Enfin, en tout cas, une bonne partie. Il a chanté un peu partout.
Oui, je pense, oui.
À la Rose Rouge, au Queue de Libé.
Les Assassins.
Oui.
Enfin, moi, je dis des choses. Je parle de lieux que je connais pas.
Qui, malheureusement, ont disparu pour la plupart. Donc,
oui, voilà. Et puis, qui, de toute façon, la tradition du cabaret, pratiquement, c'est plus ce que c'était, si ça existe encore.
Ça redémarre un peu en ce moment, mais c'est oui. Bon, plus sous la même forme, ça, c'est clair.
Enfin, je demande à voir aussi. Hein.
Ben, allez-y. À Paris, il y a quand même des choses qui se passent en ce moment. Alors, les premières chansons de Léo Ferré ont été éditées en partition par Le Chant du Monde dès 1947.
Voilà. Donc, je pense que Le Chant du Monde avait pris comme auteur, compositeur, donc au départ, je pense. Et puis, vu les difficultés pour Le Chant du Monde de placer les chansons à des interprètes, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une tradition d'interprètes qui a un peu disparu aujourd'hui, je crois. Et.
Ça c'est vrai, parce que les.
Aujourd'hui, mais là, on est auteur, compositeur, interprète. On est trois, quoi.
C'est difficile de sortir de ce schéma-là. Une chanson écrite donc vers 1949-50 résume vraiment. Enfin, oui, c'est ça. Représente vraiment ces années de galère. Ça s'appelle La Vie d'artiste.
Oui.
Elle est assez connue. Elle a eu d'autres interprètes. Ici, donc, c'est l'enregistrement de 1950, celui fait sur 78 tours pour Le Chant du Monde.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai. Il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. cette fameuse fin du mois qui depuis qu'on est toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profite-en mon pauvre amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Léo Ferré, La vie d'artiste, l'enregistrement de juin 1950, donc paru à l'époque sur 78 tours, Le Chant du Monde. C'est la chanson la plus existentialiste qui soit, a dit Robert Bellerey dans la très bonne biographie de Léo Ferré qui est parue chez Actes Sud. En tout cas, c'est une de celles qui est la plus fouillée. Il a fait des recherches absolument incroyables. Il est allé voir tout le monde. Enfin, c'est très précieux. Il est notamment allé voir les archives du Chant du Monde pour avoir tous les renseignements. Et on apprend énormément de choses. Et là, bon, on comprend en écoutant cette chanson les années qu'il a traversées, bon, mettons entre 46 et 50, à Saint-Germain, dans les cabarets. Mais il y a quand même eu des rencontres importantes à cette époque-là. Léo Ferré rencontrait notamment Francis Claude.
Le co-auteur, disons.
De cette chanson, oui, c'est Francis Claude.
Oui, d'ailleurs, on m'a dit c'est pas possible d'écrire une chanson de ce. Je suis pas tout à fait d'accord, mais apparemment, là, ils l'ont fait plusieurs fois, d'ailleurs, avec Francis Claude. D'ailleurs, j'avais entendu une fois dans une radio Francis Claude qui avait raconté un peu comment ça s'était passé la vie d'artiste pour écrire. Et alors il raconte que ils étaient dans un petit hôtel et puis ils arrivent comme ça et puis dans la chambre de l'hôtel et puis mon père était comme ça un peu désespéré de sa situation, il n'arrivait pas à faire ce qui ça marchait pas trop quoi. Et donc il dit on va faire une chanson et puis tac ils se remettent au piano et puis ils font tout de suite la vie d'artiste comme ça. Ce qui est assez extraordinaire quand même.
Oui, ça paraît un peu enjolivé, mais bon, c'est possible. Après tout, il y a des chansons qui se font très vite parfois.
Ouais. Ouais.
Et en tout cas, Francis Claude donc a eu la direction artistique de plusieurs cabarets sur la rive gauche, notamment le Code Libé où a chanté Léo Ferré. Et d'ailleurs, à cette époque-là, Léo Ferré a rencontré Catherine Sauvage, qui deviendra une de ses interprètes les plus importantes. Il chantait à cette époque avec Léo Noël, avec Stéphane Goldman, enfin avec tous les gens qui ont marqué cette époque des cabarets. Bon, on ne peut pas tous les citer, bien sûr. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'enregistrement qu'on vient d'entendre, c'est la première réédition donc sur CD.
Sur CD, oui. Ouais. Des 78 tours.
Et une autre rencontre très importante, c'est celle de Jean-Roger Cossimon, qui lui chantait, ou disait plutôt des textes.
Lui, mon père, à un moment, apparemment, il travaillait à la radio à Monte Carlo, et puis il avait entendu dans une émission ou sur un disque, je ne sais pas, Jean-Roger Cossimon qui disait à la scène. Et donc après, quand il est monté à Paris, une de ses premières préoccupations, c'était rencontrer ce Jean-Roger Cossimon, qui l'avait étonné par la qualité des textes qu'il avait écrits, du seul texte qu'il avait entendu, donc. Et en lui demandant, donc il était allé le rencontrer au Lapin Agile, et lui demandant
s'il pouvait mettre
musique à la scène.
Il y en a eu d'autres après, notamment Monsieur William, mais aussi le Temps du Tango, comme à Ostende, Mon Camarade. Enfin, bon, il y en a
nous deux.
Oui,
le Château pas la mort. Et puis en 85, tout un disque qui s'appelle Les Loubards, qui est très peu connu par, malheureusement, du public, mais bon, c'est comme ça. Hein.
Alors ici, on va entendre l'enregistrement de Monsieur William, le premier. Donc, parce que celui qui est le plus connu, c'est celui qui avait été fait pour Odéon en 53. Ouais. Et là, donc là, c'est celui de 50, beaucoup moins connu, beaucoup plus sarcastique et qui est très intéressant.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard. Et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, et vous manquez de tenue, mon ami. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable. Monsieur William, allons, allons, mon ami, pressons! Aux alentours, il n'y avait personne qu'un tromboneur, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant. Sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues, oh là là. Monsieur William, vous manquez de tenue, mon ami. Eh oui, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Enregistrement jusqu'à présent inédit, puisque c'était donc ça aurait dû sortir en 78 tours en 1950 et c'était resté dans les archives de, oui, du Chant du Monde.
Comme l'éteinte des roses rouges et puis la femme adultère, qui alors là on n'avait aucune trace et puis c'est ressorti comme ça derrière les fagots, un peu comme ça, on ne sait pas trop comment.
Et puis maintenant, c'est donc un de ces inédits, voilà, qui figure sur le coffret. Bah, on va l'écouter. Alors là, c'est plus Jean-Roger Cossimon qui a fait les paroles, c'est Léo Ferré. Paroles et musique, La femme adultère, donc enregistrée aussi en 1950 et qui ressort pour la première fois.
Quand il soufflait sur ton corsage le vent de la miséricorde, comme un pendu au bout de sa corde, me balançait. Quand il soufflait sur nos voyages le vent de la désespérance, comme un pendu sur sa potence, je desséchais. Et quand il soufflera l'amour au voile de ton beau navire, afin que nul ne puisse en rire, je te tuerai.
On court mais efficace, La femme adultère, donc paroles et musique de Léo Ferré, enregistré en 1950, resté inédit jusqu'à présent.
Donc c'était peut-être trop court à l'époque pour mettre sur une face de 78 tours, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas...
Mais parfois, on pouvait mettre deux titres l'un à la suite de l'autre, ça se faisait, enfin rarement, mais ça s'est vu.
Oui, mais là, comme vous dites, il était court celui-ci, mais il n'y en avait peut-être pas d'autres qui étaient aussi courts, donc c'était resté un peu comme ça, en dehors du contexte.
Ah, justement, Mathieu Ferré, expliquez-nous comment vous avez conçu ce double CD, donc qui en fait est carrément un coffret, puisqu'il y a tout un livret avec les paroles des chansons, toute l'histoire de cette époque-là, donc c'est vraiment très très complet, on a tous les renseignements sur chaque enregistrement. C'est bien plus qu'un double CD, c'est vraiment un livre, quoi, pratiquement.
Enfin, j'ai aidé à la réalisation, hein. Mais donc moi j'étais allé voir Philippe Gavardin, qui était le directeur du Chant du Monde, pour une autre chose, un autre projet que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis, lui, il était plutôt de l'idée de refaire quelque chose avec ces chansons-là, ce disque. Parce qu'ils avaient réédité en 93 un CD, donc ce premier album, mais ils avaient fait un peu ça, un peu n'importe comment, on va dire. Hein.
Oui, je suis d'accord. le son était, enfin, l'herpicage était fait.
Et il reconnaissait que bon. Donc, il dit, il faut remettre la chose à l'état bien comme il faut. Donc, on va faire ça. Alors, l'idée de mettre les 78 tours, elle est venue assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte donc que c'était des versions différentes. Et puis moi, je savais qu'à l'INA, il y avait des inédits, disons, qui sont pas... Après, il faut savoir ce que ça veut dire inédit, hein. Bon. Et on peut donner plusieurs... Il y avait l'existence de ces enregistrements. J'ai dit, ce serait peut-être bien,
de la même époque,
ce serait peut-être bien de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec donc les 78 tours et l'album de 25 cm et puis ces choses qui sont à l'INA. Et puis après, moi, par la suite, en travaillant en Italie, et comme je vous ai dit, dans tous les documents, j'ai retrouvé ces trois pirales. Donc j'ai dit, c'est absolument là qu'il faut le mettre. C'est pas autre part, parce que c'est vraiment dans ces années. Donc...
L'objet est superbe.
Merci.
Donc une anthologie, une vie d'artiste sortie. Il y a pas très longtemps chez Le Chant du Monde.
Au 29 mai.
Voilà qui est précis.
Ah oui, c'est la date de mon anniversaire.
C'est pas un hasard alors.
Oui.
Je voudrais à présent qu'on parle des premières interprètes de Léo Ferré. Je dis première parce qu'en fait il s'agit surtout de femmes.
Oui, c'est bizarre ça. C'est...
Alors la première, tout cas sur disque, c'est René Lebas. En 1948, elle a enregistré Elle tourne la terre.
Ouais. Et... Je sais qu'il l'a fait, mais je l'ai jamais entendu, moi, donc.
Eh bien, écoutez.
Et à un moment, il paraît, je crois savoir que mon père aussi l'accompagnait au piano. On est là-bas. Donc, je sais pas si. Mais en concert, je suppose.
Ah, mais pas sur ce disque, hein. Voilà. Sur le disque, c'est Valberg l'orchestre de Valberg qui l'accompagne, avec des arrangements assez réussis d'ailleurs. Eh bien, si vous ne l'avez jamais entendu, on va réparer cette lacune.
Merci.
Balance cette hirondelle qui fait le printemps. En Amérique ou bien en France, l'amour ça peut se faire en tournant. Le bon Dieu se marre dans son coin, c'est ce qu'on nomme le destin. Pourtant, les fleurs sont si jolies qu'on en ferait des folies. Tant que peut tourner la vie, elle tourne et se nomme la terre. Elle tourne avec ses millionnaires. Elle tourne et ses yeux sont les nôtres. Elle tourne et ses larmes sont les vôtres. Tu peux tourner, moi je m'en balance, les âmes en se fondent au printemps. Bravilla, d'une romance, le bonheur, ça peut se faire en tournant. Il y a quelquefois le désespoir qu'on rencontre dans espoir. Pourtant, les filles sont si jolies que les gars font des folies. Tant que peut tourner la vie. balance, tu ramèneras toujours le printemps. Tu peux tourner, car j'ai ma chance. Vas-y la terre, moi j'ai tout le temps. Y a quelquefois des hasards qu'on l'air de nous avoir. Pourtant, tu fais bien des manières et même tu exagères. Et c'est dans la marche arrière. Vas-y la terre, moi, je suis pas pressée.
Voilà, c'était René Lebas en 1948. Elle tourne la terre, paroles et musique de Léo Ferré. René Lebas est la première à avoir enregistré une chanson de Léo Ferré.
Oui.
Et elle en enregistrait d'autres, d'ailleurs, L'île Saint-Louis, Paris Canaille. Et en fait, ils étaient assez amis à cette époque-là. Et je voudrais citer d'autres interprètes quand même de Léo Ferré peu après. Il y a eu Edith Piaf, bien sûr, avec Les Amants de Paris. Suzy Solidor, L'Inconnu de Londres. Yves Montand, Flamenco de Paris. Ça, c'est en 52.
Il en a fait d'autres, Montand.
Ah bah oui, par la suite. Mais bon, si on se...
Ah oui,
là, c'est la période, disons, vraiment des débuts. Les gens qui lui ont fait confiance, en somme, à l'époque où il n'était pas encore extrêmement connu. Les frères Jacques avec Barbarie, Monsieur William, L'Homme, chanson mécanisée. Il y a eu un tout petit peu plus tard Michel Arnaud avec La vie d'artiste, Notre amour, Le pont Mirabeau. Germaine Montero, alors elle a vraiment très très bien chanté les Léo Ferré. Ouais. Et, il y avait Le piano du pauvre, La fortune, Mon petit voyou et encore bien d'autres. Après, il y a eu Patachou, Le piano du pauvre, Le temps du plastique, Annie Gould, Monsieur mon passé. Et puis, Juliette Gréco. Bon, là, on arrive
à Salvador aussi.
Oui, Salvador avec à Saint-Germain-des-Prés.
Et le scaphandrier aussi.
Le scaphandrier. En fait, il y en a eu beaucoup, même. Oui. Dès la fin des années 40 et le début des années 50.
Mais c'était l'époque un peu qui voulait ça, un peu. Les interprètes avaient vraiment un pignon sur rue, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup.
Mais ça permettait de lancer des auteurs et éventuellement ce qu'ils deviennent après aussi connus en tant qu'interprètes. Et puis il y a eu Catherine Sauvage qui a été quand même celle qui a le plus et peut-être de façon la plus convaincante chanté Léo Ferré. Donc il y a eu l'enregistrement de Paris Canaille en 52 et puis L'Homme en 53 qui lui a permis d'obtenir le Grand Prix du disque à l'époque.
Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûtée par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne. C'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cours chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, le zou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazon. C'est l'homme. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbet, son secret de polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle. C'est l'homme. Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien comprend comme un ami quand il ne reste plus personne. C'est l'homme.
Catherine Sauvage, en 1953, L'Homme, un des premiers enregistrements qu'elle ait fait des chansons de Léo Ferré, qui lui a permis d'obtenir le Grand Prix du disque. En fait, ils avaient en commun le coup de gueule, l'envie d'apostropher le public, et c'est sans doute ça qui les a rapprochés, qui a fait cette proximité artistique très importante, qui a fait que Catherine Sauvage a enregistré beaucoup de chansons de Léo Ferré, et a permis de les faire connaître encore plus, et de façon parfois internationale. Et puis pour Léo Ferré, ça a été aussi une nouvelle période, puisqu'en 1953, rentre chez Odéon, et donc là, c'est une période où il commence à être un peu plus connu.
De 53, c'est grâce à Paris Canaille, à Sauvage, etc. Piano du pauvre.
Et donc, alors aujourd'hui, nous avons surtout évoqué les années Le Chant du Monde, donc qui sont éditées de façon complète. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux au sein d'un double coffret qui est sorti il y a quelques temps, avec beaucoup de trésors. Et puis, je voudrais également signaler la biographie de Robert Belleret chez Actes Sud, Léo Ferré, Une vie d'artiste. Et puis, aux éditions La mémoire et la mer, dont vous vous occupez, Mathieu Ferré, vous avez réédité Benoît Misère, qui était un roman de Léo Ferré.
Le seul roman.
de 1970, où d'ailleurs on peut déceler quelques traces de son enfance. C'est pas autobiographique, mais enfin il y a quand même quelques, oui, quelques traces, ainsi que le recueil Testament phonographe, qui était paru initialement en 1980 aux éditions
Plasma.
Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Ferré, d'être venu nous voir. J'imagine que vous avez d'autres projets de, comme oui, ça, de, d'exhumation là, de trésors.
Ben oui, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un livre sur la musique, donc des textes qu'a écrit mon père à propos de musique classique. Donc, ça va être la prochaine sortie, disons.
En attendant les suivantes. Merci.
Merci à vous.